bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta parole encore ce matin. Et je prie, Seigneur, pour que l'exhortation de ta parole puisse créer dans chaque personne ici, Seigneur, un feu nouveau pour toi, une transformation de vie. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon et tu veux que nous vivions, Seigneur, avec un zèle pour toi, pour te servir, pour ton royaume. Merci, Père, pour cette parole. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen.
Alors, nous allons voir deux textes ce matin. Et nous allons parler de garder le bon dépôt. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 20, Paul va exhorter Timothée, et je vais vous dire ce que ça veut dire, ce passage. On va regarder 1 Timothée, chapitre 6, versets 20 et verset 21. Paul dit à Timothée, serviteur de Dieu, mais c'est valable aussi bien sûr pour les chrétiens, parce qu'un serviteur de Dieu c'est d'abord un chrétien. Ô Timothée, garde le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes, verset 21, et les disputes de fausses sciences dont font profession quelques-uns et qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous.
Ewe Timoteo murongo wa 20 wame uzigama ico wabikijwe utere ibitugu ibizira by'amagamba humanya n'ukugwana kw'ivyitwa ubwenge atari bwo ubwo bamwe bivuga ko babufise bakazimira bagata ukwizera ubuntu bubane namwe.
Alors Paul dit de garder à Timothée de garder le bon dépôt. Alors c'est pas un dépôt de bière Primus hein, dont il est parlé ici hein. Je sais certains dépôts ça a cliqué dans vos têtes les anciens soulards mais quand même.
Alors on ewe Timoteo wame uzigama ico wabikijwe mu gifaransa bavuga ngo ni depot rero ntimuce mubona ama SSD canke ya ma depot y'ibiyeri.
Je vais vous montrer ce qu'un dépôt spirituellement veut dire.
Ariko turavuga ico twabikijwe mu buryo bw'impwemo ubutunzi dutunze mu buryo bw'impwemo.
En fait, Paul lui disait en quelque sorte.
Paul ariko aramubwira mu yandi majambo.
Reste connecté dans la vérité.
Ngo nugume uri umuntu ufatanye n'ukuri.
Reste connecté avec Dieu.
Nugume ufatanye n'Imana.
Et on va parler de rester connecté avec Dieu. Et je vais vous montrer comment vous pouvez rester bouillant pour le Seigneur. De garder le bon dépôt. Spirituellement parlant. Et je vais vous encourager, vous montrer comment des gens aussi se refroidissent. Et je vais vous montrer des critères et les raisons pour lesquelles des gens se refroidissent. Mais d'abord, nous avons plusieurs exhortations dans la parole de Dieu qui nous montrent comment nous devons rester bouillants pour le Seigneur. Parce que plus tu avances avec le Seigneur, plus tu devrais être bouillant pour le Seigneur. Si tu t'es endormi, c'est qu'il y a des raisons, je vais te les montrer d'ailleurs. Et
tu
as intérêt à te réveiller, sinon on va te secouer. Dis à ton voisin, fais gaffe, tu vas être secoué par le pasteur. Alors, dans Romains chapitre 12, verset 11, Paul va exhorter les Romains. Romains 12, verset 11. Après, on va revenir sur ce texte de 1 Timothée 6.
Tu vas subir à mourir, Timothée, ou à Mbéregatandatu.
Il est dit, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Regardez bien, « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Soyez fervent d'esprit. Ce mot littéralement veut dire bouillir pour le Seigneur. Comme de l'eau qui boue. On chauffe cette eau et elle boue et elle reste bouillante. Ça, c'est quelque chose qui est important, que tu restes bouillant pour le Seigneur. Et je vais vous montrer un certain nombre de choses importantes dans votre vie spirituelle. Pour que vous soyez fervent d'esprit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Parce que rester bouillant pour le Seigneur, c'est indispensable dans ta vie. Il y a des gens parfois qui font des conversions spectaculaires. Qui ont des vies complètement détruites, qui ont été très loin dans le péché. Et d'un seul coup, ils entendent l'évangile, ils se donnent à Christ. Et on en entend parler partout. Ils donnent leur témoignage, les gens disent waouh!
Wow,
Dieu est grand, c'est formidable! Et c'est vrai, Dieu est grand. Dieu fait de grands miracles. Et aussi, l'homme peut faire de grands gâchis. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est bien de commencer avec le Seigneur. Et si tu as été tiré d'une vie extrêmement basse de péché jusqu'au cou, eh bien, il faut que tu apprennes à être bouillant pour Dieu. Et le zèle que tu as eu en étant nouveau converti, c'est un zèle qui doit être transformé, sanctifié. Et je vais vous montrer un certain nombre de choses qui font que le zèle du nouveau converti, parfois alors qu'il était bouillant, comment il peut devenir frigo et ensuite congélateur spirituel. Devenir complètement froid spirituellement. Et il y a des raisons pour cela. Pourquoi une personne qui a été touchée par la grâce de Dieu, qui est là en train de louer le Seigneur de toute sa force, qui est prêt, alors qu'il vient de se convertir, à aller à l'autre bout du monde parler de Jésus, quelques années après, vous pouvez trouver la même personne qui est déçue, désabusée, qui est là, qui ne va dans plus aucune église, qui est rétrograde, qui refait n'importe quoi avec sa vie. Est-ce que c'est par hasard que ça se passe? Ou est-ce qu'il y a des choses que la parole de Dieu nous montre, dans lesquelles elle nous avertit, pour que nous puissions rester fervents pour le Seigneur? Parce que tu as besoin de rester fervent pour le Seigneur. Si tu commences à t'ennuyer, à t'endormir dans ta vie spirituelle, il va falloir que ça bouge.
Et
je vais te montrer pourquoi c'est comme ça si tu es dans cet état-là ce matin. C'est ce qu'on appelle un état de torpeur, c'est-à-dire qu'on est endormi spirituellement. Dieu te donne un ordre, sois fervent d'esprit, sois bouillant pour lui. Ce que tu étais capable de faire peut-être avec un zèle charnel du nouveau converti, tu dois être capable de faire beaucoup mieux avec un zèle sanctifié. Parce que c'est vrai que le nouveau converti, parfois souvent, va faire des choses par charnélisme spirituel, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses qui sont complètement insensées au nom du Seigneur. Et parfois, on se casse le nez. Et des fois, on a du mal à se relever. Donc, nous allons étudier pourquoi des personnes peuvent se refroidir. Alors, être connecté avec Dieu n'est pas chose facile. Tu démarres avec Dieu. Et quand tu démarres avec Dieu, il y a des choses à faire. Il y a du nettoyage à faire dans ta vie. Nettoyage du péché. Nettoyage des relations. Mettre tes priorités en ordre. Dieu devient numéro un dans ta vie. Et ça doit être fait. Ça fait partie de la sanctification. Celui qui se donne au Seigneur, il doit maintenant prendre des résolutions dans sa vie.
qui
sont basées sur des convictions, non pas sur des sentiments. Parce que ça, c'est le piège chez les nouveaux convertis. Souvent, quand ils se donnent au Seigneur, tu leur dis, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Alors, il le fait plus au début. Il faut faire ça. Bien, chef. Bien, monsieur le colonel. Sauf que ce n'est pas basé sur des convictions. Pourquoi ? Parce que quand on vient de se donner au Seigneur, nous avons un amour très sentimental avec Dieu. La parole de Dieu va nous montrer cela dans Apocalypse, chapitre 2. Voyons ensemble au chapitre 2 de l'Apocalypse. Jésus va reprocher à une église, l'église d'Éphèse. Il va lui reprocher quelque chose à propos de son premier amour. Et on va utiliser cette illustration, regardons ensemble verset 1 jusqu'au verset 4. C'est le verset 4 qui va m'intéresser ici.
Mais
c'est tout à fait typique de la relation avec Dieu. Rappelez-vous, vous êtes dans une relation avec le Seigneur. Et une relation va être dirigé par un certain nombre d'actes que nous posons. Dans une relation, s'il n'y a pas un certain nombre d'actes l'un envers l'autre qui est posé, ça ne pourra jamais marcher à long terme. C'est vrai avec les hommes, c'est vrai avec Dieu. Alors, le Seigneur révèle à Jean la condition de sept églises dans l'Apocalypse. Et là, il va écrire à l'église d'Éphèse. Il va lui dire, écris à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas. Donc, je vous avais fait une étude sur l'Apocalypse il y a quelque temps, on avait fait plus de 60 et quelques semaines, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, tu as éprouvé les ministères. Ok, tu as prouvé ce qui était vrai, ce qui était faux. Verset 3, et que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset
4.
Alors, quand on se donne au Seigneur, il y a le feu du premier amour. Ce feu du premier amour ne va pas durer pendant 10 ou 15 ans. C'est la même chose quand des fiancés se rencontrent et des gens se marient après. Ils sont là. Si tu as basé ton mariage sur le feu du premier amour, ça reste d'être la catastrophe par la suite. Pourquoi ? Parce que le feu du premier amour, c'est sentimental. Ce feu du premier amour doit être remplacé par un amour de conviction, non plus d'un amour de sentiment.
Et
il n'y a pas de chose plus vraie avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'au début, tu reçois le Seigneur et tu es touché par la grâce. Tu découvres l'Église. Tu es là dans l'Église, t'entends les enseignements, les prédications. Ah, le Seigneur te parle. C'est normal, tu ne connais rien. Alors, le Seigneur te parle tout le temps. Par la parole. Et tu sors, ah oui, je ne savais pas ça. Oh là, c'est formidable. Tu es là, la toute première fois, tu as levé tes mains vers le Seigneur parce que tu as vu ton voisin lever la main. Et louer le Seigneur. Donc, tu as appris petit à petit comment prier. Et puis au bout d'un moment, tu as commencé à vraiment expérimenter la présence de Dieu, la louange, l'adoration. Oh Seigneur, je t'aime tellement. Je te ressens. Et ça, c'est un amour sentimental. C'est bien au départ, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et c'est bon. Parce qu'on est des bébés spirituels. Mais cet amour sentimental va passer au bout d'un moment, il va diminuer. Cette flamme du premier amour,
qui
est, tu veux ressentir Dieu, tu veux qu'on prie pour toi tout le temps, tu es intéressé par un million de choses à propos de Dieu. Et d'ailleurs, tu penses que tout ce qui parle de Dieu, c'est bon, mais là, tu vas goûter quelque chose qui va être mauvais. De temps en temps, tu vas bouffer du poison. On va parler des choses qui peuvent nous refroidir. Mais au début, tu es comme ça, tu as soif, tu veux lire la Bible du début jusqu'à la fin. Quand il y a une parole prophétique, tes oreilles sont... Mais 10 ans plus tard, tu seras peut-être. Tu t'es refroidi. Tu t'es refroidi. Tu t'es refroidi. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Que
tu
as plutôt intérêt à changer. Avant, tu courais à l'église. Maintenant, tu arrives une heure en retard. C'est juste pour dire que si jamais tu rencontres un chrétien cette semaine, au fait, dimanche, tu as été prié. Oui, j'ai été prié. En fait, tu n'es plus là pour le Seigneur. Tu es rentré dans une sorte d'habitude. Tu es rentré dans une espèce de cercle d'ennui. Il
n'y
a plus de fraîcheur dans ta vie. Tu es là et bon, les choses de Dieu, ouais, c'est bien, ouais, bon, le Seigneur me bénit, ça va. Les gros problèmes de ma vie ont été résolus, c'est bon. J'étais célibataire, maintenant je suis marié, ah, j'ai un enfant, oh, le deuxième arrive. Donc tu sais, pasteur, c'est difficile pour venir à l'église avec 2 enfants. Je n'en sais rien parce que moi, j'en ai eu que 6. Tu m'apprends quelque chose de nouveau. Oui, mais tu sais, pasteur, cette nuit, ça a sonné dans ma tête parce que le bébé a fait « oui, oui, oui ». Non, moi, j'ai jamais appris ça, j'ai jamais vécu ça. Nous allons parler de choses intéressantes aujourd'hui, la vie de tous les jours. Vous savez, si vous voulez rester bouillant pour Dieu, il va falloir vraiment vous marcher avec un amour basé sur des convictions. Et que vous soyez déterminé à rester bouillant pour Dieu. Oh, tu vas prendre des coups, ça oui. Tu vas faire des erreurs, j'en ai fait et j'en ferai encore. Mais ça peu importe. L'important, c'est ta détermination à vouloir marcher avec Dieu. Ça, ça doit être quelque chose qui doit être en toi. À dire, Seigneur, quoi qu'il se passe dans ma vie, je continuerai à marcher avec toi. Même si des fois je chute, Seigneur, tu vas me relever. Et je reprendrai mon chemin. Et je marcherai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça, ça doit être une détermination que tu dois avoir dans ton cœur. Parce que je vais vous montrer un certain nombre de choses qui peuvent vous refroidir, frères et sœurs. Et qui peuvent vous amener au bout d'un moment à vivre une espèce de vie d'habitude avec un joli vernis spirituel, mais à ne plus avoir de motivation pour Dieu. Bon, c'est vrai, je vais prier, je suis chrétien, oui, je fais rien de mal, d'accord, mais t'es froid. Et il va falloir que tu changes ton congélateur et que tu sois sur la cuisinière et que l'eau bout à nouveau et que tu sois zélé. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 11, revenons à ce verset. Il dit après, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Nous allons voir comment des gens sont démotivés pour servir le Seigneur. Je vais vous montrer les pièges classiques de la chair que le diable utilise si souvent pour refroidir les chrétiens. Et je vais vous montrer pourquoi, quelles sont les raisons de tout ça. C'est très simple, vous allez voir. D'abord, rappelle-toi d'une chose, c'est que tu es créé en trois dimensions. Et ton âme, ta personnalité, elle n'est pas née de nouveau. Ton esprit est né de nouveau. Ton esprit, il est toujours prêt à être zélé pour Dieu. À partir du moment où tu le nourris correctement, à partir du moment où tu es dans la présence de Dieu régulièrement, mais ton âme, elle... elle peut aller dans tous les sens si tu n'éduques pas. Elle peut aller dans tous les sens. Tu peux devenir paresseux. Revenons à Romains 12, verset 11. La parole de Dieu nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». La paresse, c'est quoi? La paresse, c'est un trait, un mauvais trait de caractère. En disant « Oui, je ferai ça plus tard, je prierai un peu plus tard. Je parlerai de Jésus un peu plus tard. J'irai à l'église un peu plus tard. Je serai enlevé un peu plus tard. » Non, l'enlèvement, ça se passera un jour J. Méfiez-vous, les un peu plus tard. Il faut que tu aies du zèle, mon frère, ma soeur. Tu as des priorités à gérer dans ta vie. Ton amour pour le Seigneur doit être un amour de conviction. Ton service pour le Seigneur doit être un service de conviction. Mais nous avons beaucoup de gens qui se laissent tromper par leur chair parce qu'ils marchent par leurs sentiments. Et je ne dis pas que les sentiments sont à mettre à la poubelle, parce que ça, c'était des choses qui ont été prêchées, qui sont mauvaises. Mais tu dois savoir canaliser tes sentiments, les soumettre, les sanctifier, pour que ce ne soit pas eux qui te dictent ta façon dont tu dois te comporter vis-à-vis de Dieu et de son amour. Mais que tu dois fonctionner selon tes convictions. Mais ça, c'est indispensable. Si tu ne le fais pas, tu vas te refroidir. Alors, la première chose qui refroidit les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la déception, être déçu. Être déçu. Parce que quand tu es dans un amour pour Dieu et pour l'église de Dieu, eh bien tu peux vivre un certain nombre d'événements qui vont te décevoir. Par exemple, tu ne sais pas encore bien prier, tu ne sais pas encore positionner ta foi, et d'un seul coup, la tragédie va rencontrer ta vie. Par exemple, j'ai vu des gens perdre un enfant et remettre toute leur foi en question. Un conjoint, une conjointe, ou perdre beaucoup d'argent d'un seul coup, se faire saisir une maison alors qu'ils avaient des problèmes financiers, ils avaient prié mais rien ne s'est passé, ou se faire escroquer alors qu'ils ne s'y attendaient pas, et d'un seul coup on dit un seul coupable. Dieu. Ils accusent Dieu pour leur tragédie. Ne faites jamais ça. Mais il y a des bébés spirituels qui ne comprennent pas le royaume de Dieu encore, qui passent par des tragédies. Ils ont prié pour des choses, elles ne se passent pas, Et là, ils sont déçus quelque part.
Parce
qu'au début, tout au début de leur vie spirituelle, on priait et il y avait des choses qui se
passaient.
Sauf que maintenant, ils ne comprennent pas qu'ils doivent commencer à prendre leurs responsabilités parce qu'ils sont supposés grandir. Au début, quand tu te donnes les premiers mois, voire la première ou deuxième année, les autres te portent dans la foi. Mais après, c'est toi qui dois commencer à générer ta propre foi dans ta vie. Et parfois, il y a des gens qui ont des attentes vis-à-vis de Dieu, mais qui ne sont pas bien placés. Qui
ne
sont pas faites dans la foi. Et paf, ça ne se passe pas, ou il y a une catastrophe qui se passe. Et là, ils commencent à se refroidir vis-à-vis de Dieu. Et ils étaient zélés charnellement, et ça ne s'est pas produit. Ou parfois, c'est des personnes qui les ont mal dirigés dans les choses spirituelles. Et d'un seul coup, ces gens-là vivent une tragédie. Et ça va casser quelque chose dans leur relation avec Dieu parce qu'ils vont accuser Dieu. Et ça, ça se passe. Alors, il y a d'autres personnes qui sont déçues parce qu'ils attendent quelque chose des hommes. Ils placent des attentes sur les hommes. Ça peut être des serviteurs de Dieu ou ça peut être des frères et sœurs en
Christ.
Et ils ont une sorte d'attente de la part des hommes. Il va faire ça pour moi, elle va faire ça pour moi. Le pasteur va faire ceci et cela pour moi. Le ce frère ou cette sœur va obligatoirement m'aider dans ce domaine. Et ça ne se passe pas. Oui, on va me donner telle position dans l'église. Et ça ne se passe pas. Mince alors. Et là, la personne commence à se refroidir. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des attentes avec les yeux sur les hommes. Mais la parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Personne ne te doit quoi que ce soit. Arrête de placer tes attentes sur les êtres humains. Parce que parfois tu seras très déçu. Et si tu mets une attente démesurée sur des gens, que ça ne se produit pas, que les gens ne font pas ce que tu attendais de leur part, et qu'ils ne te doivent pas d'ailleurs, tu risques d'être très déçu. Et là, tu marches encore avec un amour avec Dieu sentimental. Si ce qui se passe avec les êtres humains, ça a des conséquences sur ta relation avec Dieu, c'est que c'est mauvais.
Vous savez,
c'est une des choses les plus difficiles, ça. Que ce qui se passe entre les êtres humains n'affecte pas notre relation avec Dieu. C'est quelque chose qui est très difficile. Ça demande une grande maturité parce que souvent vous remarquerez que votre vie spirituelle va dépendre de ce qui va se passer dans votre entourage relationnel avec les enfants de Dieu. Observez bien, vous le verrez que c'est une vérité dans vos vies. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à dépendre de Dieu tout en ne faisant pas ce que des super spirituels disent en disant « j'ai besoin de personne ». Parce que ça, c'est des discours parfois qu'on entend, moi j'ai besoin que de Dieu seul. Et
bien
alors on va t'acheter une île déserte ou on va t'envoyer sur la lune et tu vas vivre tout seul. Non, nous avons besoin les uns des autres. Soyons bien clairs. Et d'ailleurs la Bible nous le montre très clairement. Si Dieu voulait que l'homme vive seul et dépende seulement de lui et ne s'occupe pas de son prochain, Adam serait resté tout seul et il n'y aurait eu qu'un homme sur la terre. Mais Dieu a voulu une interaction entre les êtres humains. Et Dieu en a besoin, nous en avons besoin. Maintenant, tout dépend de la qualité que tu as avec les gens, la qualité relationnelle que tu as avec les gens. Mais parfois, tu places des attentes trop élevées sur des personnes. Par exemple, il y a des histoires de fiançailles qui tournent très mal et les gens d'un seul coup dégringolent spirituellement. Quand tu étais fiancé, oh, alléluia, alléluia. Et puis d'un seul coup, tout casse. Oh, pourquoi, Seigneur? Oh, je ne vais plus dans cette église, vraiment, ils sont tous mauvais. Mon frère, ma soeur, réveille-toi un peu là. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont très sentimentaux. Apprends à baser ta relation avec Dieu sur des convictions. Oh, et puis tu vas passer des moments plus ou moins faciles ou difficiles avec les gens. Mais ton amour pour le Seigneur doit rester stable et grandir. Parce que c'est basé sur des convictions.
Oh,
la dernière fois, le pasteur, il a, comme certains disent, il m'a prêché. Je ne sais pas où on a trouvé cette expression, mais ici vous le dites, il m'a prêché. Ça doit être du kirundi traduit direct en français. Il m'a prêché. Il me visait comme ça, hein, son doigt faisait comme ça, mais en fait il voulait faire comme ça. Si tu t'es senti visé, mon frère, ma soeur, réfléchis pourquoi. Il y a peut-être des raisons. Ici, en tout cas, nous n'utilisons pas la chair pour régler des comptes. Si on a besoin de régler des comptes, on les règle entre quatre yeux. C'est plus pratique. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui utilisent leur position pour régler des comptes directement. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous n'utilisons pas ce genre de méthode. Donc parfois, tu vas avoir des attentes très haut placées chez des gens et puis paf, tu vas être déçu. Ça peut être un piège pour ta relation avec Dieu. Apprends à être beaucoup plus sage et à dépendre du Seigneur, tout en faisant attention à ton prochain. Mais ne fais pas dépendre ta relation avec Dieu à partir des hommes. Maintenant, reste bien dans l'équilibre. Tu dois dépendre de Dieu, mais tu as besoin des autres et tu as besoin de bonnes relations avec les autres. Alors, il y a autre chose aussi qui peut beaucoup nous décevoir, et ça je l'ai vu aussi beaucoup. C'est les escroqueries. J'ai vu un certain nombre de gens se refroidir pour le Seigneur parce qu'ils ont subi des coups et des escroqueries de la part de serviteurs de Dieu. Ou de serviteurs de Dieu, prophète Pili Pili
Anko.
Des gens qui sont venus les escroquer directement. Sous le couvert de l'évangile, bien évidemment. Et il y a beaucoup de victimes. C'est pourquoi nous vous prévenons régulièrement dans cette église. Faites attention aux gens qui veulent vous dire tout ce qu'il y a dans votre vie. Ce ne sont pas des vrais prophètes de Dieu. Des gens qui n'arrêtent pas de vous dire « Le Seigneur m'a dit, allô, il faut que je vienne tout de suite te voir ou viens me rencontrer à tel endroit parce que Dieu m'a montré quelque chose dans ta vie. » Des gens qui, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les dîmes et les offrandes, sont là, se présentent comme des prophètes ou des serviteurs de Dieu et disent « tu dois me donner ça, tu dois faire ça » et d'un seul coup, je vois la gloire de la richesse qui va te tomber
dessus.
C'est pas la gloire de la richesse qui va te tomber dessus, c'est la gloire de l'escroquerie pour celui qui va empocher ton argent. Et c'est terrible ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui au départ sont vraiment des gens bien intentionnés, qui pensent bénir un serviteur de Dieu sans voir l'escroquerie.
Sauf
que quand ils se sont fait rouler et qu'ils se réveillent, ils vous diront tous plus ou moins la même chose. Tous ces gens-là qui se disent soi-disant serviteurs de Dieu sont des escrocs, ils vous diront tous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont blessés. Et quand tu es blessé, tu as tendance à globaliser.
Tu es amer
envers les gens de la catégorie qui t'ont fait mal. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se refroidissent sérieusement. Parce que le pire, c'est quand tu subis quelque chose qui est faux et qui paraît être divin. Parce que tu l'as cru, parce que tu avais fait confiance à quelqu'un qui se disait venir du Seigneur. Bon, quand le diable te fait un gros coup parce que tu t'es laissé avoir. Quand les hommes ont fait un bon plan et tu t'es vraiment fait coincer. Bon, ça fait mal. Mais bon, tu te dis, je me suis fait avoir, j'ai manqué de discernement. Bon, ça fait mal. Et quand c'est quelqu'un qui se réclame être serviteur de Dieu et qui vraiment t'escroque au nom du Seigneur, là, ça fait mal. Le jour où tu vas te réveiller, tu vas avoir mal. Et ton amour pour Dieu va complètement baisser. Tu vas te refroidir, tu vas devenir méfiant. Et il y a un certain nombre de gens que vous entendez, que vous connaissez, frères et sœurs, qui ne veulent même plus mettre les pieds dans une église parce qu'ils se sont fait avoir par quelqu'un. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais parfois il faut aider ces gens-là, mais ces gens-là sont blessés. C'est vrai que quand on s'est fait rouler, en général on a ouvert les portes. Parce que vous savez, le diable voit très bien quand les gens sont prêts à écouter ce genre d'escroquerie. Donc c'est à toi de savoir suffisamment sur la parole, d'avoir suffisamment de discernement spirituel pour ne pas faire des choses que tu vas regretter après. Alors, après toutes les déceptions, toutes ces choses-là qui nous refroidissent, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant les futilités. Les choses inutiles. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a certains qui vivent dans le désordre, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais regardez bien, qui s'occupent de futilité. Alors les futilités, c'est s'agiter, c'est remuer de l'air. Tu t'occupes de choses qui ne sont pas importantes. Tu as l'air très occupé, mais en fait tu n'accomplis rien. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels les chrétiens perdent leur temps et sont inefficaces. Et il va falloir que tu fasses attention. On va regarder un peu ces mots, hein, futilité. Et nous allons découvrir pas mal de choses qui nous envahissent.
Mais
d'abord, vous devez comprendre qu'il y a dans ce monde un esprit qui agit, qui est là et qui est constamment contraire à la connaissance de Dieu. Regardons Éphésiens chapitre 2. Vous allez voir ce que Paul dit, qui est très instructif pour nos vies et qui va nous montrer exactement ce pourquoi petit à petit tu peux glisser et t'endormir. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, c'était nous morts spirituellement, je vous le rappelle, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Regardez bien, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce monde a été soumis à la loi du péché et de la mort. À cause d'Adam, nous le savons. Adam et Ève ont mis ce monde sous la malédiction de la chute. Le péché a amené la mort, a amené la maladie, a amené la pauvreté, nous le savons, a amené en fait tout ce qui va à l'encontre de la vraie connaissance de Dieu. Donc la parole nous dit qu'il y a le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Toi, tu es une créature en trois dimensions. Tu es bombardé d'informations naturelles par tes cinq sens. Tu entends des informations de ce monde et c'est normal. Tu es dans ce monde. Tu reçois de partout des choses négatives, des choses du monde. T'as les politiciens, t'as les économistes, t'as les artistes, enfin tout ce qui se passe dans ce monde quand on ouvre les informations. Les guerres, les famines, toutes sortes de choses. Boum, 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 boum. Les nouvelles économiques. Boum, 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 boum. Et tout ça nous amène dans des raisonnements, ce qui est tout à fait normal. Tu as un job, ton job, tu dois le faire du mieux possible, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin d'être organisé, c'est normal, c'est naturel.
Tu as
tes occupations, tu dois être organisé dans ta vie.
Tu dois
gagner ton pain, c'est normal. Ta vie. Pas seulement ton pain, c'est une expression. Et tu dois t'occuper de ta famille, tu dois être organisé, tu dois dormir, tu dois manger, etc. Chose tout à fait naturelle et normale. Sauf que le truc, c'est qu'il faut que tu marches dans des convictions spirituelles. Ça veut dire qu'il va falloir que tu choisisses par conviction de prendre du temps pour développer ta relation avec Dieu. Parce que je pense, si je me trompe, vous me direz si je me trompe, que nous avons tous la même montre, que nous avons tous le même capital temps, et que nous avons tous un certain nombre d'années à vivre sur cette terre. Maintenant, si vous voulez mourir jeune, qu'il soit fait selon votre foi, moi je ne mourrai pas avant 95 ans.
À 95
ans, j'irai à la maison de mon papa là-haut. Mais si vous avez envie de partir à 40 ans ou à 35 ans ou à 27 ans ou à 28 ans, qu'il soit fait selon votre foi. Maintenant, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi de croire la parole de Dieu, la longue vie sur la terre en bonne santé. Alors maintenant, pendant ce temps que tu as sur la terre, il y a cet esprit qui est là. Tout est naturel, tout est anti-Dieu ici.
Et là-dedans,
dans ta petite boîte, là, il y a plein de choses qui se passent tous les jours.
Maintenant,
ton esprit est de nouveau. Lui connaît Dieu. Et lui, c'est lui qui doit être. Rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 12, verset 11. Soyez fervents d'esprit.
Ça
doit bouillir là. Et même si tu es comme dans une casserole et qu'il y a un couvercle, si ça boue, le couvercle va se lever.
Et
quand ça boue dans ta nature spirituelle, ça déborde dans ta vie.
Mais
encore faut-il que tu prennes soin de ta nature spirituelle. C'est pour ça que Paul disait, garde le bon dépôt, fais gaffe Timothée. Ne commence pas à t'endormir. Et Paul nous dit clairement, attention aux futilités. Jésus nous dira dans Matthieu 13, verset 22, quelque chose qui va venir insidieusement. Rappelez-vous de la parabole du semeur, on en a parlé dans les dîmes et les offrandes. On en a parlé dans les dîmes et les offrandes. Un semeur sorti pour semer. La même semence, quatre types de terre. La première, il ne se convertit pas, il refuse l'évangile. La deuxième, il fait une conversion émotionnelle. Il paraît être sauvé, mais il n'est pas sauvé, c'est juste un adhérent à l'évangile qui ne dure pas longtemps. Le troisième, c'est peut-être toi ce matin, dit « Ouh, j'espère que ce n'est pas toi mon frère. » Dis lui, c'est pas toi mon frère, c'est pas toi ma soeur, j'espère. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Et quand vous regardez le début de la parabole, la semence va pousser. Donc, il va bien être de nouveau. Il va bien démarrer dans sa relation avec Dieu. Le feu du premier amour est là. Maintenant, il va falloir que ce feu du premier amour qui est sentimental soit transformé par un zèle de ferveur qui est basé sur des convictions. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui? Les soucis du siècle. La séduction des richesses. En fait, les choses de l'esprit du monde qui l'envahissent à nouveau. Tu dois faire sortir le monde de ta mentalité et l'empêcher de revenir. Les premières années de ta conversion, ça doit être quoi? Ça doit être de faire sortir les mentalités du monde de toi.
Et
les remplacer par la mentalité de Dieu. Mais après, tu dois faire attention que le monde ne revienne pas à l'intérieur de toi. Et c'est ça les soucis du siècle. Les soucis du siècle, c'est de ne plus gérer correctement spirituellement tes priorités. Là où tu mettais Dieu en premier pendant tes premières années. Maintenant, tu le mets en deuxième, en troisième.
Ah
oui, pasteur, maintenant je suis marié, tu sais, j'ai plus autant de temps. C'est vrai, je pense qu'à Bujumbura, il faut à peu près 2 heures ou 3 heures pour venir à l'église. Je crois que les églises, la ville est tellement grande ici. Vous savez, nous, quand on s'est converti, on mettait 2 heures pour aller à l'église.
Et
on l'a fait pendant bien des années. 2 heures pour aller à l'église.
Des
fois, on travaillait le matin de 8h jusqu'à 17h passées. Et on était à 20h à l'église, 20h-20h30. Et on revenait à la maison, il était 22h-22h30. Et notre église était tellement grande que la réunion du... C'était pas à nous à l'église, mais on n'était pas pasteur à l'époque. Mais l'église où on allait était tellement grande que la réunion de prière du mardi soir, en général, il y avait 60 personnes. Et on y allait. On y allait. Parce qu'on était zélés pour le Seigneur. Vous savez, moi, dans ma vie, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé. Je pense que je peux à peine remplir les doigts de la main où j'ai loupé des cultes le dimanche. Dis à ton voisin, je pense qu'il te faudrait une vingtaine de mains peut-être. Si c'est ça, c'est que tu t'es refroidi, mon frère, ma sœur. Et je
ne
te parle pas d'être un chrétien du dimanche, je te parle d'être zélé dans ton cœur. Je te parle d'être motivé pour Dieu quand tu viens louer et adorer Dieu avec tes frères et sœurs. Je te parle de chercher la parole de Dieu pour chercher des révélations sur la parole de Dieu dont tu as besoin. Je te parle d'avoir un zèle qui est sanctifié et transformé par sa puissance. Arrête de te faire embarquer par les soucis du siècle. Mais gère tes priorités. Occupe-toi de la maison de Dieu et il s'occupera de ta maison. Oui, mais en ce moment, ce n'est pas facile, pasteur. Mon petit me réveille 3 fois la nuit. Eh bien oui, mais je sais ce que c'est, même 4 fois si tu veux. Même 5 ou 6. Je sais ce que c'est. Tu ne vas pas m'apprendre. Je suis déjà passé par là. Mais rappelez-vous, je n'ai pas dû louper 5 cultes dans ma vie, si mes souvenirs sont
bons.
Pourquoi ? Parce que je marche par mes convictions.
Tu veux
marcher avec Dieu, marche avec des convictions, sois déterminé dans ce que tu veux faire. Arrête de te laisser bouffer petit à petit par le monde à nouveau. Mais sois fervent d'esprit. Ne dépend pas des circonstances. Ta relation avec Dieu ne doit pas dépendre de circonstances. Mais elle doit dépendre uniquement de tes convictions. Et ces convictions, il faut que tu les travailles à l'intérieur de toi. La séduction des richesses. Je vous préviens souvent et je vous le dirai encore. Faites attention. À partir du moment où tu commences à prospérer, obligatoirement, tu vas être beaucoup plus occupé professionnellement. C'est normal. Et tu ne dois pas glisser dans le « oui, mais je ne peux plus venir ». Vous savez, c'est comme il y a des gens. J'arrive pas à les comprendre. Ils vont nous voir. Oui, vous savez, pasteur, vous ne voyez plus au culte parce que je fais des études à l'université. Nous étudions tous les week-ends et tous les soirs. Mauvais, mauvais, mauvais. Comment tu peux sacrifier ta vie spirituelle pour aller avoir un bout de papier qui s'appelle une licence?
Oh,
dites un amen là, ça me déçoit que vous ne disiez pas amen. Vous voyez, c'est ce genre de truc que le monde pointe au bout du nez des chrétiens. Et c'est comme ça que tu vas te faire piéger. Sauf que tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui. Mais dans quelques années, on va te retrouver rétrograde. Et ça, c'est classique, frère. Tu te fais bouffer petit à petit par le monde. Ou alors, tu es du genre à vouloir faire 50 choses en même temps. C'est devenu une maladie nationale ici. Les gens, ils s'engagent dans 50 000 programmes. Je te garantis, engage-toi dans 50 000 programmes et tu vas tout perdre.
ndakubwiza ukuri ugiye mu bintu byinshi cyane utakaza byose.
Tu as des enfants à la maison, tu les laisses, la bonne et le travailleur s'en occupent. Ah, ils s'en occupent, ils vont même les tripoter aussi.
Ukagira abana muhira ukabasigira abakozi ugasanga nabo bariko baraba.
Mais c'est comme ça que ça se passe, les viols sur les enfants. Parce que
tu as
50 programmes, je n'ai pas le temps. Bujumbura, tu n'as pas le temps.
Tu n'as
pas le temps à Bujumbura. Tiens, je vais t'amener dans certains pays, tu vas voir. Là, tu diras que tu n'as vraiment pas le temps. Mais ici, franchement, pour quelqu'un qui sait s'organiser, il n'y a pas de souci, il peut largement avoir du temps pour beaucoup de choses. Les distances sont courtes. Les heures de travail des fonctionnaires sont très réduites. C'est le seul pays où je sais que les gens sortent à 15 heures. Ils sont sortis 4 fois dans la journée, bien sûr. Vous voulez que je vous parle des choses de la vie? Nous parlons des choses de la vie. Ne dites pas, je suis trop occupé. Je n'ai plus le temps pour ça ou ça, pasteur. Parce que je ne vous croirai pas. Ça veut dire que vous ne gérez pas vos priorités. Ça veut dire que tu t'es refroidi. Ça veut dire que tu as besoin de te repositionner pour être bouillant pour Dieu.
Et
sache une chose, si tu continues à te refroidir, tu le paieras dans quelques années. Il y a des gens qui se sont refroidis. Je vais vous dire quelque chose. Et ces gens-là, je veux que vous alliez les voir. Pour les engueuler, parce que 2014, ça doit être l'année de l'engueulade aussi. Vous savez, il y a des super spirituels qui prient le dimanche matin au lit. Sauf que ces super spirituels, les anti-églises, ils
ne
savent pas ce qu'ils sont en train de faire de destruction dans leurs enfants. Oh là, c'est sûr, il est en train de prier au lit. Sauf que je vais vous dire une chose. Quand leurs enfants vont être adolescents, ça sera les premiers à crier « Qu'est-ce que tu as fait pendant toute la nuit du samedi soir ?» Parce que leurs enfants auront été éduqués hors église, hors relation avec Dieu. Donc
ce
n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le payer, mais c'est les enfants qui vont le payer. Parce que leurs enfants n'auront jamais été éduqués dans le Seigneur. Et croyez-moi, ils vont avoir la vie dure, ces gens-là. Amen. Donc il faut que vous alliez les voir et les prévenir. Parce qu'ils sont en train de détruire la future vie spirituelle de leurs enfants. Et c'est un drame.
Mais
moi, je connais la parole de Dieu. Moi, je sais, de toute façon, je prie, il n'y a pas de problème. Oui, et tes enfants aussi, d'ailleurs. Oui, tous les soirs, on fait la prière. Seigneur, bénis l'église qui est dans notre maison. Bénis l'église dans laquelle on ne va plus avec papa et maman.
Vous
savez, il y a des gens qui font vraiment du mal à leurs enfants. Les enfants ont besoin d'être éduqués dans le Seigneur, de grandir avec des repères. Si tu enlèves leurs repères, si tu en les empêches d'avoir des bons repères, crois-moi, le diable saura bien mettre les mauvais repères en eux. Et crois-moi qu'à l'adolescence, tu vas avoir des surprises. Et il y en a plus d'un qui va se faire avoir avec ça. Et c'est bien dommage, frères et sœurs. Et tout ça, c'est la conséquence de se refroidir. De petit à petit être occupé à autre chose. Je n'ai plus le temps. Parce que mon travail me prend beaucoup. Vous savez, il y a des boulots qu'il faut savoir refuser. Hein. Parce que c'est des boulots qui ne t'amèneront jamais à avoir une relation forte avec le Seigneur. Et Dieu a quelque chose de bien meilleur. Dieu n'a pas un boulot qui va t'écarter de ta vie spirituelle. Ce genre de travail, que les païens le fassent. Et pas quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur. Oui, mais pasteur, on me propose 3 fois mon salaire. Bon, il y a juste un tout petit inconvénient que je ne voulais pas vous dire, mais je pourrais plus être là le dimanche matin. Et voilà, et paf. Oui, ton salaire est multiplié par 3 et ta relation avec Dieu est divisée par
5000.
Et tu crois que Dieu pourra te bénir, non? Parce que tu mets ta priorité sur ton salaire. Dieu a plein de façons de te bénir. Ça, c'est des gens qui marchent, vous voyez, qui se font bouffer par le monde. Qui s'occupe des choses du monde. Tu as des promesses de Dieu, mais les promesses marchent toujours avec les priorités divines.
Quand tu commences
à changer des priorités, à laisser le monde te réenvahir à nouveau, je te garantis, sur le moyen et le long terme, jamais tu verras la bénédiction de Dieu. Parce que tu marches dans la chair. Et parce que tu marches dans la chair, tu récolteras la chair. Tu vas te refroidir. Tu vas complètement t'endormir. Et dans quelques années, tu auras même du mal très sérieusement à prier. Alors de temps en temps, tu iras dans un séminaire à droite à gauche où il y a un orateur. Et tu feras partie de ces gens qui pensent être très spirituels. Et qui sont complètement endormis, qui ne comprennent rien du tout. Et malheureusement, on en trouve de plus en plus. Et frères et sœurs, si nous voulons vraiment voir Dieu agir, marcher sur des convictions, il faut marcher vraiment avec un engagement avec le Seigneur. Il faut être fervent d'esprit. Le monde est sorti de nous et ce n'est pas maintenant qu'il faut le ramener. Et avertissez des frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans le désordre, qui se sont fait bouffer à nouveau par le monde, qui ont laissé le monde les réenvahir à nouveau. Mais comme ils connaissent la parole de Dieu, ils vous sortiront tous les versets bibliques pour se justifier.
Mais
nous devons les avertir. C'est notre rôle. Maintenant, c'est à eux de prendre leur responsabilité. Mais je vous garantis, dans 10 ans, 15 ans, vous allez voir des gens pleurer sur ça. Ils vont regretter amèrement des mauvaises décisions qu'ils auront prises. Parce que petit à petit, se seront laissés à nouveau envahir par le monde. La prochaine fois, je continuerai sur ce sujet. Et je vous montrerai comment les futilités aussi peuvent nous faire perdre beaucoup de temps. Nous parlerons des grands discoureurs super spirituels aussi. Nous parlerons des gens qui ne savent vraiment pas gérer leurs priorités. Nous verrons différentes choses, le compromis aussi au niveau doctrinal. Et nous verrons aussi comment justement nous pouvons garder cette flamme et la faire grandir en nous avec l'amour de Dieu.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.